Et c'est l'heure du national. Bonjour, ici Clotilde Say sur les ondes de Canal M. Ravie de vous présenter quelques articles qui sont parus à droite et à gauche, partout sur le grand territoire canadien, sur des territoires qui sont demeurés francophones et qui nous présentent des journaux, que ce soit des journaux numériques ou des journaux sur papier, et qui nous présentent des articles écrits en français pour des gens qui vivent en français. On va commencer avec le métropolitain.com et un papier, ma foi, que j'ai trouvé pas mal passionnant. Ça s'appelle « Découvrir l'époque des Fatimides au musée Aga Khan » et c'est de Philippe Thivierge. Le musée Aga Khan de Toronto a ouvert ses portes en 2014 et a pour raison d'être de faire découvrir l'histoire et la culture des nations musulmanes d'hier à aujourd'hui. De par la variété de ses artefacts, l'exposition permanente bilingue du premier étage offre d'ailleurs un panorama impressionnant des 14 siècles d'existence de l'islam. Les objets qui y sont présentés, aussi délicats soient-ils, ont jusqu'à 1000 ans d'histoire. Et l'ensemble de la collection permet aux visiteurs de voyager de l'Afrique du Nord à l'Asie centrale, de l'Arabie à la vallée de l'Indus, etc. Le deuxième étage du musée est consacré aux expositions temporaires et jusqu'au 2 juillet, c'est au tour du califat des Fatimides d'être mis en vedette par l'institution. De 909 à 1171, cet empire existera à l'intérieur de frontières mouvantes, mais qui s'étireront à son apogée de l'Algérie à l'Arabie saoudite actuelle, englobant également le Levant et même la Sicile. Peu après la conquête de l'Égypte en 969, la capitale sera déménagée au Caire et l'exposition consacre d'ailleurs beaucoup de place à la dimension égyptienne dans la culture et l'histoire de ce califat. Quant au terme de califat, rappelons-le, il se réfère au territoire sous l'autorité d'un calife, nom donné à des chefs de communautés musulmanes prétendant au titre de successeur de Mahomet, le prophète de l'islam. C'est ainsi que le nom de Fatimide, par lequel cette dynastie est désignée, dérive de Fatima, la fille de Mahomet, de laquelle ses souverains se disaient les descendants. Autre détail qui n'est pas anodin, les Fatimides appartenaient à une petite dénomination musulmane, l'ismaélisme, qui existe toujours et dont le guide spirituel est aujourd'hui Karim al-Husseini, qui, de par cette fonction, porte le titre d'Aga Khan. C'est ce leader religieux qui, entre autres initiatives, a fondé ce désormais célèbre musée torontois. L'exposition sur les Fatimides regroupe environ 90 artefacts faits de cristal, de bronze, de marbre, d'ivoire, etc. Il s'agit d'objets décoratifs ou liés intimement au culte musulman, de même que des bas-reliefs faisant autrefois partie de bâtiments. L'exposition focalise donc sur les arts plutôt que sur la vie quotidienne des gens de l'époque. La dynastie Fatimide s'étant distinguée par ses politiques de tolérance et de cohabitation harmonieuse entre les musulmans, les chrétiens et les juifs, une attention a aussi été accordée dans le choix des artefacts aux non-musulmans. Les visiteurs remarqueront les fréquentes représentations de plantes, de fruits, de personnages et d'animaux de toutes sortes. La faune illustrée est souvent associée aux expéditions de chasse de l'élite dirigeante. Monsieur Melikian Shirvani, curateur de l'expo, insiste d'ailleurs sur le fait que, contrairement à une idée reçue, les représentations d'animaux et d'humains ne sont pas unanimement condamnées dans l'islam et, au contraire, se retrouvent abondamment dans toutes les cultures islamiques. L'historien voit dans la légèreté des thèmes dépeints une des caractéristiques majeures de l'art sous les Fatimides. Même lorsque des symboles sont empruntés aux autres cultures, le traitement esthétique qui leur est réservé est toujours original, souvent près de la caricature. Les dirigeants n'échappent pas non plus à la liberté de ton des artistes, ce qui laisse supposer un assentiment du pouvoir à la production de leurs œuvres. Selon M. Melikian Shirvani, c'est d'ailleurs l'impression que le visiteur retiendra de l'exposition. C'est l'art d'une époque extrêmement particulière, commente-t-il, où l'éclectisme des œuvres reflète le caractère d'une société éclatée, ayant à son sommet une dynastie issue d'une microscopique minorité. Le califat des Fatimides est associé à un nom bien connu dans le monde musulman, mais dans ce cas-ci, pas pour les bonnes raisons. C'est en effet sous les coups de l'armée de Saladin que l'Empire s'écroule et ses œuvres systématiquement détruites par le conquérant. Il n'en reste plus aujourd'hui que des fragments arrachés çà et là au sable du désert. Une de ses réalisations les plus importantes demeure cependant la ville du Caire Est, pour l'essentiel, une création des Fatimides. En fait, la ville du Caire est, pour l'essentiel, une création des Fatimides. Les visiteurs peuvent s'attendre à passer 2 heures dans le musée Aga Khan. Celui-ci offre, en plus de ses expositions, une programmation de conférences et d'activités diverses qui, au-delà de la simple question religieuse, font découvrir tout un pan de l'histoire de l'humanité.
Hello Kitty, bonjour violente femme. Bonjour Grace Kelly, bonjour madame. Hello Superman, bonjour solitaire. Bonjour tous les jours, tout à l'envers.
C'est magnifique, on veut dire bonjour. Bonjour à tous, les scamblants. À mes rêves de l'antenne, tenez bonjour. Bonjour, allez, comme allez, comme.
Oh là, l'amour, bonjour, la fontaine. Bonjour, le dernier, bonjour, la graine. Sur les fesses, bonjour la neige. Hola le système, bonjour le revers.
Bonjour à tous les francophones qui s'expriment donc dans la langue de Molière au Canada et pourquoi pas aller dans le courrier de la Nouvelle-Écosse où on nous parle des 5 langues les plus parlées au Canada. Un article qui nous dit « Le Canada est un des pays les plus multiculturels au monde et bon nombre de ses habitants parlent plus d'une langue. Le bilinguisme comporte plusieurs avantages, il facilite la prise de décision, il améliore la mémoire et il protège le cerveau de certaines maladies comme la démence. Nous vous présentons un aperçu des 5 langues les plus parlées au Canada et si vous n'êtes pas déjà bilingue, pourquoi ne pas apprendre une 2e langue ? Il n'est jamais trop tard, après tout, pour s'instruire et pour découvrir une des 2 langues officielles de notre pays. Alors, évidemment, la première, c'est l'anglais, vous l'aurez sûrement deviné, c'est la langue la plus couramment parlée à la maison dans notre pays. En fait, c'est près de 98% des Canadiens qui affirment être en mesure de soutenir une conversation en anglais, en français ou dans les 2 langues. Ouais, Je dirais plutôt en anglais, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Le français est la deuxième langue la plus parlée. C'est la seconde langue officielle du Canada. Elle n'est pas parlée uniquement au Québec, non, bien sûr. La preuve, cette émission Le National. Plusieurs communautés à l'extérieur de la belle province ont d'importantes populations francophones. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le gouvernement fédéral s'assure d'offrir ses services dans les deux langues officielles dans la plupart de ses points de service. La troisième langue la plus parlée au Canada, le cantonais. Non, le mandarin d'ailleurs, le mandarin. Bien que la langue maternelle d'un cinquième de la population ne soit ni le français ou l'anglais, seulement 6,2% des Canadiens parlent une langue autre que le français ou l'anglais à la maison. Le mandarin est surtout courant dans les grands centres urbains. Vient en quatrième position le cantonais, également populaire dans les grandes villes. Le cantonais est une autre langue d'origine chinoise, mais couramment parlée au Canada. Et puis en cinquième, alors, quelle est d'après vous la cinquième langue la plus couramment partagée à la maison à travers le Canada? Eh bien, je suis convaincue que là, tout le monde dit l'espagnol. Eh bien non, c'est le Pendjabi. Et oui, c'est le Pendjabi qui est la langue des immigrants la plus souvent signalée, notamment à Vancouver, à Calgary et à Edmonton. En général, le nombre de Canadiens qui parlent plus d'une langue augmente constamment. Alors, avez-vous des suggestions sur la façon dont nos deux langues officielles peuvent continuer d'être pertinentes dans un Canada de plus en plus diversifié? Eh bien, sachez que le Commissariat aux langues officielles organise des consultations publiques et vous invite à partager vos idées en visitant le site languesofficielles.gc.ca. Et on continue de parler de langue dans le courrier de la Nouvelle-Écosse et on continue de parler de bilinguisme avec les avantages d'élever des enfants dans un milieu bilingue. En tant que parents, nous voulons que nos enfants puissent profiter de tous les avantages qu'une vie heureuse, saine et prospère peut leur apporter. Bon nombre de parents estiment qu'il est important que leurs enfants réussissent bien dans les sciences et les mathématiques et qu'ils aient de bonnes notes à l'école. Toutefois, saviez-vous que le fait d'apprendre une deuxième langue comme le français ou l'anglais offre également plusieurs avantages uniques? Alors voici quelques raisons qui vous inciteront à élever votre enfant, dans un milieu bilingue. Et je vous rappelle que c'est dans le courrier de la Nouvelle-Écosse. Un meilleur développement cérébral. Les recherches ont démontré que l'apprentissage d'une deuxième langue modifie le volume et la structure du cerveau. La capacité de parler au moins deux langues correspond à un exercice mental qui forme le cerveau et favorise une meilleure concentration, améliore la mémoire et perfectionne la capacité de résoudre des problèmes et d'accomplir certaines tâches. Les personnes bilingues ont de meilleures aptitudes sociales, ce qui leur permet de démontrer de l'empathie envers les autres et de mieux percevoir les gens. Selon les experts, les personnes bilingues auraient plus de facilité à dissimuler leurs émotions et leurs pensées, ce qui leur permettrait de mieux saisir celles des autres. Lorsqu'ils seront plus âgés, vos enfants auront une raison de plus de vous remercier de les avoir élevés dans un milieu bilingue. En effet, les études ont démontré que le fait de parler deux langues peut retarder l'apparition de la démence, y compris la maladie d'Alzheimer, d'environ 5 ans. Le bilinguisme peut également protéger le cerveau de certaines conditions. Les personnes bilingues qui ont survécu à un accident cérébrovasculaire sont deux fois plus susceptibles de se rétablir sur le plan cognitif que les personnes unilingues. Puisque les langues françaises et canadiennes sont les langues officielles du Canada, et on nous le rappelle une fois de plus, alors je vais quand même passer ce petit passage-là que je vous ai déjà lu, pour me concentrer sur celui-ci. Si vos enfants apprennent deux langues dès leur tendre enfance, ils en profiteront dans tous les aspects de leur vie. Le fait de parler une deuxième langue offre des avantages qui durent toute la vie, qu'il s'agisse de trouver un bon emploi, de voyager vers des destinations attrayantes, de mieux communiquer avec des gens et de mieux comprendre d'autres cultures ou encore de contribuer à enrichir différentes communautés. Voilà pour les avantages d'élever des enfants dans un milieu bilingue, un papier qu'on peut trouver dans le courrier de la Nouvelle-Écosse.
Grand.
Et si le français faisait aussi partie de l'identité franco-manitobaine, c'est ce que se demande Stéphane Oistruc, qui nous dit qu'il serait temps de briser le tabou du franglais. C'est un article qui nous vient de Valentin Cueff, qui est écrit dans laliberté.ca, qui est le seul journal d'actualité en français au Manitoba. Alors l'idée fait grincer quelques dents, hein, si le franglais faisait aussi partie de l'identité franco-manitobaine. Il reste que des artistes comme Stéphane Oistruc, à l'instar d'autres créateurs, ont déjà pris les devants en incluant le langage bilingue dans leurs œuvres et à leur sens pour de bonnes raisons. Pour le cinéaste de Saint-Boniface, mettre en scène le franglais est une façon de correspondre davantage à la réalité des francophones au Manitoba. Après la projection de son film FM Youth en 2014 à Montréal, Stéphane Oistruc est monté sur scène pour la séance de questions-réponses et un Montréalais a pris la parole pour s'indigner du langage employé dans le film. Un franco-manitobain s'est levé à son tour pour faire comprendre aux Québécois qu'ils n'avaient rien compris à leur réalité avant de lui asséner un fuck you peut-être, et de quitter la salle. Stéphane Oistruc maintient « Si j'avais utilisé un français standardisé pour FM News, je ne pense pas que ça aurait résonné chez les gens et qu'ils se seraient reconnus dans mon travail. Je pense que ça n'aurait pas été Saint-Boniface. Le franglais, c'est une partie intégrale de ce qu'on vit et qui nous sommes. Je ne voulais pas faire semblant que cette pratique n'existait pas. » Le franglais est pour lui le reflet logique de ce que les francophones du Manitoba vivent comme minorité linguistique dans un océan d'anglais. Quand tu as des amis qui comprennent les deux codes linguistiques, tu vas sans doute mélanger les deux langues pour mieux te faire comprendre. Certaines expressions se disent mieux dans une langue ou dans une autre, ou parfois on n'arrive pas à trouver le mot. Alors, on switch. Ce langage, c'est aussi le reflet de la culture à laquelle les franco-manitobains sont exposés. La culture anglophone nord-américaine est très attrayante et bien présente dans nos vies francophones, ce sont des classiques. Quand tu es au secondaire, tu veux lire un best-seller du New York Times plutôt qu'un livre de Gabriel Roy. Tu ne sais pas comment trouver quelque chose en français qui ressemble à ce qu'on offre dans cette culture anglophone. étant minoritaire dans l'Ouest canadien, est-ce qu'il y a des œuvres qui nous ressemblent, dans lesquelles on peut se retrouver et se dire qu'on existe? Des œuvres qui feront dire « j'ai une identité culturelle qui est valable, unique, qui vient d'ici ». C'était un de mes objectifs en faisant FM Youth. C'est pour contribuer à ce matériau culturel de chez nous. S'il conçoit que la pratique du franglais peut être un symptôme de l'assimilation, le réalisateur de 35 ans pense aussi que c'est un tabou à dépasser. Je comprends qu'il faut qu'il existe aussi une forme standardisée des langues. On devrait tous comprendre le français standardisé. Utiliser le franglais ne veut pas dire qu'on n'a pas un bon niveau de français. Ça veut juste dire qu'on connaît les deux codes. Il peut d'ailleurs même être une porte vers le français, plutôt que d'éloigner les gens de leur identité francophone. Stéphane Oistruc estime que si le franglais était mieux accepté, plutôt que de constamment viser une langue pure et débarrasser de tout mot d'origine anglaise, les gens découvriraient davantage leur francophonie. Il faudrait enfin être honnête avec nous-mêmes. Si on arrêtait de dire que parler en français est honteux, peut-être les gens n'auraient plus à avoir honte de qui ils sont et voudraient peut-être enrichir leur côté français. Le cinéaste, marqué par la lecture de la pièce « Sex, Lies et les Franco-Manitobains » de Mark Prescott, pense que la pratique fait son chemin dans la culture francophone du Manitoba. C'est de plus en plus dans l'air et accepté culturellement. Ce n'est plus une pratique réservée au foyer et aux groupes d'amis. Ça commence à faire partie de l'identité francophone d'ici et je trouve ça intéressant. Je pense que ça peut aider à épanouir le français d'une certaine façon. S'il pense que le franglais n'est pas la langue de demain, Stéphane Oistruc trouve attrayante l'idée d'un français nourri du contact avec d'autres langues, et pas seulement l'anglais. Je me rappelle d'une présentation, voilà quelques années, de l'artiste Janelle Touga et de la comédienne Catherine Denizet. Elles avaient imaginé, lors d'une activité du conseil provincial, du conseil jeunesse provinciale, le CJP, à quoi ressemblerait la langue que parleraient les francophones du Manitoba dans 20 ans. Elles avaient eu l'idée que oui, il y aurait le franglais, mais qu'on insérerait aussi des mots « michif ». Sénégalais ou autre, dans la langue française, et que ça deviendrait un métissage extraordinaire, à l'image de la communauté francophone qui vit ici. Et ça, c'est une belle idée de dire ce jeune cinéaste qui vit à Saint-Boniface, dans la région manitobaine. Il s'appelle Stéphane Oistruc et ce papier était signé dans laliberté.ca, je vous le rappelle, par Valentin Cuff.
Danser avec les filles du Nord, à jouer aux cartes, puis veiller tard. Ni quack and back, j'y vais de moins en moins souvent. Il reste plus de bon restaurant. Y'a rien d'ouvert après 5 heures. Ni quack and back.
Le franglais des Hey Babies, pas facile à comprendre. Hein? On essaie, mais... Vous savez, on se plaint à Montréal. Là, on a eu cette grosse neige lourde, cette grosse neige à bonhomme qui nous est tombée cette semaine. Et ça se plaignait de tout bord, tout côté. Et ça chiolait. Évidemment qu'on trouvait ça bien beau, mais il y en avait qui disaient « Garde, je veux même plus que ce soit beau. » Eh bien, laissez-moi vous lire ce qui s'écrivait mardi dernier dans l'Acadie Nouvelle, donc au Nouveau-Brunswick. On nous disait « La bombe météorologique qui était attendue mardi soir sur les maritimes a livré la marchandise. Après une nuit de neige, de vent et de poudrerie, le mauvais temps se poursuit mercredi matin et entraîne la fermeture de nombreuses écoles et services publics. Environnement Canada fait état de vent atteignant plus de 60 km/h dans certains secteurs mercredi matin. L'agence prévoit d'autres accumulations de neige pouvant atteindre jusqu'à 30 cm. Toutes les écoles de la province seront fermées. » Le campus de Chipagan dans l'université de Moncton est fermé pour la journée, celui de Moncton l'est pour au moins l'avant-midi. Plusieurs services offerts par le réseau Santé Vitalité sont également suspendus. Des tronçons de route sont impraticables. L'organisation de mesures d'urgence est mise en place, imaginez. À 9h mardi, il y avait presque 5000 personnes d'Énergie Nouveau-Brunswick qui étaient privées de courant, dont près de la moitié dans le comté de York. Et à 10h20, ce nombre était passé à 4400, en tout cas pareil, autour de 5000. Les régions les plus touchées étant celles de York et de Miramichi. Environnement Canada indique de plus que des vents forts d'est pourraient occasionner un chevauchement des glaces en raison de la pression des glaces le long des côtes faisant face à l'est et au nord-est de la baie des Chaleurs, vers le sud jusqu'au comté de Kent, et que ça risque de pas être trop beau, être très beau lors de la marée haute. Bref, quand on se compare, on se console. Vous écoutez Le National, c'est Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. Le National, seconde partie, on commence en chanson.
The bombing wind echo my moat. The bombing wind drew up my coat. The poker shended. The book was ended. My mo, my mo. Hey, 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 hey. Echo in the no. The bombing ended. Bombing ended. Can in bake wall. To up my going note. Hey, my mo, eat a dog. I'm in wind it. You up my go. The book was ended. It's in my go. The bomb and wind it. The bomb and what it. My mo, my mo. Hey, 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 hey. Echo in the no. The bombing winded. Bombing winded. Can in bake wall. To open the going note. Hey, mambo, eat the dog. Bombing winded. Can in bake wall. To eat your going note. Hey, mambo, need
C'est Florent Volant qui nous amène jusqu'en Saskatchewan où dans l'eauvive.ca, j'ai trouvé pour vous ce papier qui s'appelle « Colonialisme ». Évitons de trop romancer la rencontre franco-autochtone. L'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées récemment de passage à Yellowknife révèle en toile de fond l'oppression d'un colonialisme historique encore vivant. Les Premières Nations auraient été dépossédées de leurs terres avec l'arrivée de colons dans l'Ouest canadien, l'Ontario et le Québec. Quel rôle les Canadiens français ont-ils joué dans ces migrations? On se rend compte en tant que chercheurs et Canadiens informés qui participons au dialogue public que la colonisation n'est pas que du beau, que la fondation du pays s'est faite aux dépens des peuples autochtones. Le Canada français a fait un bout de chemin à faire vers une prise de conscience de son héritage colonial. Il faut éviter de trop romancer la rencontre franco-autochtone. Le professeur d'histoire Jean-François Lozier de l'Université d'Ottawa définit les termes. La colonisation est l'action de peupler un territoire. Le colonialisme est un système ou une idéologie qui légitime l'établissement de rapports coloniaux. Pour les autochtones, le colonialisme est bien réel. Selon le spécialiste des 17 et 18e siècles des relations franco-amérindiennes, il existe toujours au Canada une classe de citoyens reconnus par la loi qui n'ont pas les mêmes droits que les autres, qui sont privés de pouvoir économique et défavorisés dans plusieurs domaines. Entre le racisme virulent et de bonne volonté que l'on peut observer chez les citoyens, on voit aussi, dit ce papier, l'incapacité de comprendre que le Canada est encore basé sur des rapports de domination. Bien des gens réagissent avec colère à ce constat qui remet en question le grand récit de l'histoire canadienne. On se compare souvent aux Américains en se disant qu'on ne ferait pas de mal à une mouche. Depuis toujours, explique Jean-François Lozier, le colonialisme tourne autour de l'exploitation des ressources naturelles. Dans le contexte canadien, on pense aux fourrures, surtout les peaux de castor. C'était l'enjeu principal de l'expansion territoriale par la France et la Grande-Bretagne. En Afrique, ce sont d'autres ressources, les mines, le latex. Le chercheur rappelle que le partage du territoire et des ressources, notamment en vertu de traités signés au 19e siècle, devait être équitable. Mais le développement économique se fait d'une manière qui fait fi des droits des autochtones, que ce soit des mines, des oléoducs, des barrages hydroélectriques. Une prise de conscience parmi la population aurait produit une volonté de dialogue sur les ressources. Mais quand on parle aux autochtones, on voit que la consultation donne l'impression qu'on s'intéresse à leurs perspectives, mais qu'en fin de compte, les corporations et les gouvernements font à peu près ce qu'ils veulent. Jean-François Lozier a constaté que le colonialisme des Français au XVIIe et XVIIIe siècle aurait causé moins de dommages que celui des Britanniques au XIXe et XXe siècle. Ce n'est pas parce que les Français étaient gentils, ils voulaient dominer les autochtones, mais ils étaient trop peu nombreux pour les obliger à changer leur mode de vie. L'économie de la Nouvelle-France dépendait de la main-d'œuvre autochtone. Si on les assimile et qu'ils deviennent des paysans, alors qui va emporter le castor au poste de traite? Le colonialisme moderne, qui s'affirme après 1867 avec sa bureaucratie, l'encadrement des mœurs et l'école obligatoire, cherche à exclure les populations autochtones que l'on croit vouées à disparaître. Le régime canadien crée alors un système de réserve pour les isoler. Qu'en est-il des populations francophones? On va dire qu'on est tout de même devenu un peuple colonisé par les Britanniques, note le professeur Lozier. Qu'on s'est libéré de ce joug-là par la révolution tranquille des années 60. Se voyant comme un peuple historiquement opprimé, il est difficile de voir comment on aurait aussi contribué à l'oppression des autochtones. La mémoire collective a fait de la figure du pionnier, qu'il soit explorateur, missionnaire ou simple habitant, un véritable héros culturel. Mais au 19e et 20e siècle, beaucoup change avec l'alliance entre les gouvernements et les églises. On fonde un réseau de pensionnats pour briser la continuité générationnelle et détruire les cultures autochtones par la culture occidentale. Jusqu'alors, ils n'en avaient pas été capables. Les Franco-Albertains ont été sensibilisés à cette réalité en 2017, lorsqu'ils ont commencé à planifier les célébrations du centenaire de l'Association canadienne-française de l'Alberta. Ils se sont heurtés à des enjeux de réconciliation avec les autochtones. Les fondateurs francophones sont des pères oblats. La discussion est différente au Manitoba à cause des liens entre les métis et les francophones, explique Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta. Ici, on est loin l'un de l'autre. Si on célèbre nos fondateurs, on ne peut pas le faire en niant le rôle des Oblats dans les écoles résidentielles. Le professeur Lauzier reconnaît l'idéal de la réconciliation, mais il estime qu'elle n'arrivera pas du jour au lendemain. C'est un processus et non pas un événement. On risque de ne pas vivre, nous et nos enfants, ce moment magique. Va falloir y travailler et ce ne sera pas confortable pour qui que ce soit. La clé dans tout ça, c'est de trouver des occasions d'entrer en relation et d'interagir en tant que non-autochtones avec des individus qui ont grandi dans les réserves ou des autochtones de souches récentes.
Tu sais que c'est aussi chez moi. Chez ta mère, il y a tes frères, tes soeurs, ta mère, le chien et ta grand-mère.
Vaut mieux que le temps que j'ai avec toi autour de moi soit d'or et d'argent.
On a ensemble, parce qu'il y a de l'amour, parce que l'on est ensemble, nous vivons vraiment mieux.
C'était monsieur, non pas, comment il s'appelle, Fred Pellerin, mais bien son frère Nicolas Pellerin qu'on entendait sur les ondes de Canal M. Nous allons maintenant en Ontario, dans le régional.com, où l'Université de Waterloo, nous dit-on, est l'épicentre de la recherche sur l'intelligence artificielle, écrit Rudy Chaban. Alors que le gouvernement fédéral a rendu public en février la liste des 5 lauréats de l'initiative des Super Grapp ISI qui se partageront une enveloppe de 950 000 dollars. Deux de ces consortiums, Scale.ai et NGM Canada, appuient leur projet sur les recherches menées à l'Université de Waterloo. Plusieurs équipes de chercheurs orientent en effet leurs travaux dans les domaines de l'intelligence artificielle au cœur de ce que l'on appelle l'axe d'innovation Toronto-Waterloo. Cet écosystème technologique emploie plusieurs milliers de travailleurs dans l'industrie de pointe et comprend certains des meilleurs centres universitaires et de recherche au monde, dont l'Université de Waterloo. L'ambition du consortium québécois Scale.ai est de façonner une nouvelle plateforme mondiale de chaîne d'approvisionnement. Fourniture, fabrication et distribution d'un produit intelligente dans le commerce de détail, la fabrication et les infrastructures du pays en s'appuyant sur la robotique et la science des données. Le consortium sud-ontarien NGM Canada veut quant à lui optimiser la collaboration entre les secteurs de la technologie et la fabrication en utilisant l'Internet des objets, le Big Data, les capteurs et les machines intelligentes. Ces deux projets pourraient donner au Canada un avantage concurrentiel dans l'industrie grâce à l'intelligence artificielle, à condition de surmonter une spécificité toute canadienne. L'économie du pays est 10 fois plus petite que celle des États-Unis et comporte une forte concentration de petites et moyennes entreprises, soit 90% des emplois du secteur privé. Une position limite l'innovation à grande échelle et crée un écart de productivité. L'Université de Waterloo est très fière de participer à 2 des 5 initiatives choisies par le gouvernement pour faire progresser l'économie de notre pays, a déclaré par voie de communiqué M. Hamdou Lapour, président et vice-chancelier de l'université. Dans le Franco, le journal albertain, le seul qui soit publié en français, là-bas, on pouvait lire il y a quelques semaines un papier sur les armoiries, l'esprit créatif des jeunes sollicités à l'occasion des rendez-vous de la francophonie. La CFA provinciale donne la possibilité aux jeunes francophones de présenter leur propre armoirie de la francophonie albertaine. Organisée par l'entremise du répertoire Accent, ce concours encourage les jeunes à exprimer leur fierté et leur appartenance à la culture franco-albertaine. Et puisqu'on parle des francophonies, eh bien, de la francophonie, et pas des francophonies, excusez-la, puisqu'on parle de la francophonie cette semaine, toujours dans le même journal, en mars en Alberta, eh bien, mars en Alberta, c'est important, c'est le mois de la francophonie. Le drapeau franco-albertain a été hissé pour la première fois cette année, le vendredi 2 mars, au centre McDougall à Calgary. Le ministre de la Culture et du Tourisme, Ricardo Miranda, était au rendez-vous pour annoncer le mois de mars comme le mois officiel de la francophonie. « Il s'agit d'une très grande initiative que nous apprécions énormément », déclare Nicole Buret, la présidente de la CFA régionale de Calgary, à l'annonce du ministre. Cette année, la cérémonie s'est donc déroulée en la présence du député parlementaire Michael Connolly et de Ricardo Miranda, ministre de la Culture et du Tourisme. Et ce dernier, donc, s'était écrit en exergue, a déclaré officiellement que le mois de mars serait le mois officiel de la francophonie en Alberta. Cette annonce de nature officielle prévoit d'être progressivement incluse dans la programmation des rendez-vous de la francophonie pour l'année 2019. Ce sont plus de 150 personnes qui se sont réunies à Calgary afin d'assister à la levée du drapeau franco-albertain pour la 9e année consécutive. Accompagnés de musique, danse et chocolat chaud à l'érable, les petits comme les grands ont pu célébrer ce mois de la francophonie avec enthousiasme, écrivait Sabine Verzier dans le Franco de Calgary, en Alberta.
Fort comme un aimant, malgré la distance.
dans Aurore Boréale de .ca, oui, un journal très très lointain qui nous vient du Yukon et qui est également rédigé entièrement en français, Kelly Tabuteau nous parle de la course en hiver. Courir en hiver, tout un défi. Cette année, la Yukon Arctic Ultra, la course de l'extrême hivernale du Yukon, a pris un tournant particulier à cause d'une météo très compliquée. Lorsque l'organisation a pris la décision d'annuler la catégorie 692 km jusqu'à la ville de Dawson, imaginez, les températures glaciales, oscillant entre moins 35 et moins 50 degrés Celsius, ont eu raison d'un grand nombre de coureurs qui ont finalement dû abandonner après avoir parcouru le marathon jusqu'au chenil de Muktuk. En fin de compte, quatre compétiteurs achèveront les 160 km terminant à Brayburn. Trois autres continueront jusqu'à Paddy Farm, mais seulement un seul athlète finira la distance de 480 km. Des résultats de cette édition 2018, il est légitime de s'interroger quant à la survie des courses à propulsion humaine en hiver, puisque celles-ci sont soumises aux caprices de Dame Nature. Virginia Sarrazin, lors de la Sousitna 100. Les moins 25 degrés Celsius et la longue distance ne l'empêchent pas de garder le sourire. On la voit d'ailleurs sur une photo qui est fournie au journal et qui nous est également montrée dans auroreboreale.ca. Virginia Sarrazin, passionnée de course à pied et instigatrice de l'unique ultramarathon du Yukon, dont le départ de la deuxième édition est prévu le 1er juillet 2018, s'est tournée depuis quelques années vers les courses d'hiver en Alaska. De retour de la Sousitna 100, elle se confie sur les raisons de ce choix. En Alaska, ce type de course est très populaire. Il y a donc un plus grand choix. Elles sont souvent organisées avec plus de points de contrôle, ce qui permet de courir plus légèrement, ce que j'apprécie grandement. Cette course de 160 km au nord d'Anchorage, on va dire ça comme ça. Excusez-moi, ce sont des noms qui nous sont beaucoup moins familiers que Montréal et ses environs. Alors, cette course est accessible aux cyclistes, aux coureurs et aux skieurs. Elle emprunte des autoroutes pour motoneige, des sentiers de traîneaux à chiens ou des rivières gelées, donnant ainsi peu de dénivelé au tracé. Outre la difficulté physique d'achever une telle course, c'est le mental qui est mis à rude épreuve, car parfois, les compétiteurs ont l'impression de faire du surplace tellement la vue est dégagée. Au Yukon, à part l'Arctic Ultra, il n'existe pas vraiment de course hivernale mêlant tous les moyens de déplacement à propulsion humaine. On trouve des défis pour les skieurs, mais rien pour les amateurs de course à pied. Alors, un groupe de pratiquants s'est peu à peu développé autour de la Moonlight Runners Society. Si au départ, ce n'était qu'un rendez-vous mensuel pour courir les nuits hivernales de pleine lune, l'intérêt grandissant a permis d'organiser des sorties plus régulièrement. Et Virginia Sarrazin s'en réjouit. « Cet hiver, j'ai enfin, dit-elle, l'occasion de ne pas courir seule. C'est une grande première et c'est encore plus stimulant. » Le succès de cette société secrète est tel qu'une délégation yukonaise de 5 coureurs s'est rendue la fin de semaine à Fairbanks, c'était la fin de semaine dernière, pour prendre part à la course China River to Ridge, près de Fairbanks, en Alaska, pour le 40 km. On peut donc tout à fait courir en hiver. Bien sûr, il est primordial de faire attention à la météo et au terrain sur lequel on s'aventure si l'on ne veut pas se mettre en danger. Rejoindre un groupe est toujours plus sécuritaire quand on a peu d'expérience en la matière. Source de motivation et d'apprentissage, cela permet de continuer son activité estivale pendant la saison froide. On peut retrouver toutes les propositions de sortie de la Moonlight Runner Society sur le groupe Facebook du même nom. Dans l'Express.ca, maintenant, nous sommes de retour à Toronto, où il est question des cabanes à sucre dans les environs de Toronto. La région du Grand Toronto ne compte peut-être pas un éventail de cabanes à sucre aussi large qu'au Québec, écrit Sandra Dorelas, mais on y trouve tout de même quelques établissements qui permettent la pratique de cette activité canadienne à souhait. Elle nous dit déjà que certaines cabanes à sucre offrent une virée en carriole. Elle nous présente présente d'abord la Gibbons Family Farm, à mi-chemin entre Montréal et Toronto. Cette ferme vous accueille sur son terrain de 100 acres. La cabane à sucre compte un magasin avec une variété de produits faits à base d'érable comme des tisanes, du beurre à la cannelle ou encore de la gelée et les fameuses bouteilles de sirop en forme de feuilles d'érable. Vous pourrez aussi, amis torontois, faire une dégustation de cet héritage en or et assister au procédé de transformation de la sève faite à partir de méthodes traditionnelles et modernes. Il y a aussi la McLachlan Pancake House. C'est toujours dans le secteur de London, à environ 2 heures de Toronto. Cette maison et ce Pancake House est un restaurant au décor rustique où l'on vous sert un brunch composé de crêpes, de saucisses, de jambon et de fèves cuites dans le sirop, bien sûr, le tout accompagné du jus d'érable pur récolté sur place. Et sachez que l'établissement offre également une balade à carriole tirée par des chevaux pour le plaisir, évidemment, des petits et des grands. Et puis, pendant qu'on y est, pourquoi ne pas vous parler du White Meadows, qui est situé à environ 1 heure à l'ouest de Toronto, dans la région de Sainte-Catherine. La cabane à sucre vous propose même des tours de tracteurs et une balade en forêt, ainsi qu'une visite guidée pour vous permettre d'en apprendre plus sur le procédé de traitement du onctueux liquide doré qu'on adore, le sirop d'érable. Alors voyez-vous, dans la région de Toronto, il y en a aussi, il y en a des cabanes à sucre. Alors à vous toutes et vous tous qui nous écoutez d'est en ouest, je vous souhaite aussi de passer des bons moments dans les cabanes à sucre. C'est le temps de se régaler et de se faire aller le foie avec des produits très très maigres, hein, comme on le sait. Mais c'est tellement bon. Alors c'était Clotilde Say qui remercie Maurice Bolduc d'avoir été en régie aujourd'hui et qui vous donne rendez-vous pour un autre national le vendredi de la semaine prochaine sur les ondes de Canal M, bien sûr. Salut, merci. See.